Merci d'écouter RFI. 11h30 en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
Et dans une demi-heure, ce sera l'heure de votre journal, Charlotte Hydrac, avec à la une les législatives anticipées au Canada.
Oui, les premiers bureaux de vote ont ouvert là il y a une demi-heure maintenant pour succéder à Justin Trudeau. Match entre les libéraux et les conservateurs. Et avec un nom qui n'apparaît nulle part sur les bulletins de vote, mais qui a pesé sur toute la campagne, Donald Trump, qui malmène son voisin avec la guerre commerciale et ses menaces d'annexion.
À suivre aussi le coup d'envoi d'une semaine marathon à la CIJ, la Cour internationale de justice.
Une semaine d'audience sur le blocus de l'aide humanitaire à Gaza par Israël. Une arme de guerre pour les Palestiniens. Une date également pour le conclave qui élira le prochain pape. Cela débutera le 7 mai, donc mercredi prochain. Et puis le procès d'une bande de papy braqueurs tout à l'heure à Paris, auteur du sensationnel cambriolage de la star de télé-réalité américaine Kim Kardashian. C'était en 2016 dans la capitale française.
A tout à l'heure, Charlotte.
RFI. L'Europe à midi.
L'actualité européenne est toujours beaucoup de questions sur l'avenir de l'Ukraine, les contours de l'accord de paix que les États-Unis veulent faire signer à Kiev et Moscou le plus rapidement possible. À l'instant, le président russe annonce une trêve de 3 jours. À partir du 8 mai, il faut rappeler que la précédente n'avait pas été respectée. Et Vladimir Poutine vante surtout ses succès militaires. Il salue ce matin l'exploit de ses soldats à Koursk. Cette région, en partie occupée depuis le mois d'août dernier par l'armée ukrainienne, contrainte depuis de reculer de plus en plus et donc désormais totalement repoussée selon Moscou. Repoussée notamment grâce aux soldats nord-coréens. Pour la première fois, le régime de Pyongyang confirme leur présence. La télévision nationale a vanté le succès des sous-unités militaires à Koursk qui ont participé, dit le journaliste que vous entendez en ce moment, à la libération de cette région et repoussé, selon ses termes, l'invasion aventureuse de la Russie par l'Ukraine. Tout ceci n'empêche pas la Russie de se dire prête à négocier avec l'Ukraine. Mais il y a des prérequis que le ministre des Affaires étrangères donne à la presse. Sergueï Lavrov estime que la communauté internationale doit d'abord reconnaître l'annexion de la Crimée et des autres régions sous contrôle russe dans l'est de l'Ukraine. Hors de question pour Volodymyr Zelensky, qui ne croit toujours pas à une quelconque bonne volonté russe.
L'Ukraine, elle, est prête à agir le plus rapidement possible sur le plan diplomatique. Il y a 47 jours, nous avons accepté la proposition américaine d'un cessez-le-feu inconditionnel. Et plus tard, nous avons fait nos propres propositions aux Russes pour qu'ils cessent de frapper des cibles civiles, au moins cela. Mais à Moscou, ils répondent avec des drones, des missiles, de l'artillerie et de nouveaux assauts. Il faut que la communauté internationale réponde de manière appropriée avec de nouvelles sanctions et une pression encore plus forte. Et bien sûr, c'est l'Amérique qui peut prendre les mesures les plus tangibles pour la Russie.
La guerre, les bombardements russes qui visent aussi les médias ukrainiens. Les journalistes ne sont pas épargnés. D'ailleurs, dans la région frontalière de Soumy, le journal Peremoa a dû quitter ses locaux dans la petite ville de Krasnopilia, mais l'équipe a tenu à rester quand même dans la région. Et de la capitale régionale, Soumy, le journal édite toujours 4 pages d'informations locales. Notre correspondante, Emmanuelle Chaz, s'est rendue sur place.
En cette matinée ensoleillée de printemps, Olga Kistenko, journaliste de Peremoa, nous rencontre à Soumy. Elle comptait se rendre à Krasnopilia, d'où elle a évacué il y a quelques jours, mais la situation ne le lui a pas permis.
Non, je n'ai pas pu y aller. Je voulais parler au député maire, mais il ne me répond plus.
Olga, comme la majorité de la population de Krasnopilia, a dû évacuer il y a quelques jours, et avec elle, les autres membres de la rédaction de l'hebdomadaire Peremoa, un journal de 4 pages qu'elle contribue à éditer depuis plusieurs années. Le journal, fondé en 1932, a survécu à la Seconde Guerre mondiale et a continué à publier après une interruption au début de l'invasion à grande échelle en 2022, lorsqu'une partie de la région de Soumy était occupée.
Lorsque l'invasion à grande échelle a commencé, nous autres, dans la région frontalière, hier, avons dû interrompre notre publication parce qu'on ne pouvait pas travailler correctement ni livrer les journaux. Pas possible d'imprimer ni de livrer, donc on a eu une pause de plusieurs mois. Je vais vous montrer notre copie du 25 février 2022. Nous l'avons livrée en avril 2022.
Alors que les chars russes traversaient Krasnopilia, il a fallu tout cacher. Du nom du journal, car Peremoa signifie « victoire » en ukrainien, aux récompenses affichées au mur de la rédaction et aux preuves des affinités de la rédaction avec les soldats ukrainiens. Mais l'équipe est restée sur place.
Jusqu'à aujourd'hui, nous étions 4 à travailler pour Peremoa. Maintenant, nous ne sommes plus que 2 rédacteurs, puisque notre rédacteur en chef a signé un contrat avec l'armée, qu'il a rejointe le 25 mars 2025. Mais nous n'avons pas quitté Krasnopilia lors de l'invasion, ni abandonné notre communauté. Nous avons continué de l'informer via Facebook notamment.
Fin mars, devant les bombardements incessants, la rédaction de Peremoa, qui imprime 1 000 000 d'exemplaires à destination de la population locale, a finalement dû se résigner et évacuer. À Soumy, en portant aussi les archives du journal, la rédaction a trouvé refuge au club de la presse locale, dont le directeur, Serhii Kanin, s'inquiète pour le sort de la presse régionale.
Ici, dans notre centre, on accueille une douzaine de rédactions qui peuvent travailler. Ailleurs, dans la région, il ne reste que les bureaux des gros médias. C'est difficile de dire qui va partir, qui reste. Les gens sont obligés de partir et c'est difficile de dire qui va pouvoir continuer à publier.
La vie de Peremoa, comme celle de beaucoup d'autres rédactions de la ligne de front dans la région de Soumy et ailleurs en Ukraine, est menacée par la guerre et avec elle la mission d'information auprès des populations locales. À cela s'ajoute un autre défi à relever, celui du financement.
Jusqu'à ce que les Américains imposent la fin de l'aide financière par le biais du USAID, nous travaillions grâce à ces subventions. Et on peut même dire que c'est grâce à ça que nous existions. Maintenant que ces subventions se sont taries, nous cherchons d'autres sources de revenus. Nous regardons s'il y a un moyen d'avoir des fonds européens. On va trouver.
Dans la sûreté toute relative de la ville de Soumy, elle aussi régulièrement touchée par des frappes russes, Peremoa porte bien son nom. Tout comme les Ukrainiens qui continuent de résister à l'agression russe et malgré les difficultés, la rédaction du journal local de Krasnopilia compte bien survivre elle aussi.
Reportage de notre correspondante Emmanuelle Chaz. L'Ukraine, toujours en grande difficulté face à la Russie, Volodymyr Zelensky cherche des alliés face à Moscou, face aux États-Unis aussi, qui s'alignent sur certaines positions de Vladimir Poutine. Un allié, il devrait y en avoir un au sein du gouvernement allemand, Daniel Valo. La CDU vient de présenter ses choix, la CDU qui avait remporté les élections législatives du mois de février. Et les conservateurs ont choisi comme nouveau ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul.
Oui, Johann Wadephul qui est l'un des experts des questions de politique étrangère au sein de son parti et qui a déjà effectué plusieurs missions à l'étranger pour Friedrich Merz depuis que la CDU a remporté ses élections. C'est donc un proche du futur chancelier allemand et un habitué du Bundestag. Il est député depuis 2009 et il était, durant la législature précédente, le chef adjoint du groupe CDU au sein du Parlement. Âgé de 62 ans, il va être le premier chef de la diplomatie issue de la CDU depuis la fin des années 60. Le poste revenait systématiquement jusque-là dans les contrats de coalition, soit aux libéraux, soit aux socialistes, soit aux écologistes.
Autre particularité, Johann Wadephul, qui est avocat de formation, a aussi servi dans l'armée allemande pendant sa jeunesse.
Oui, avant ses études, en sortant du lycée, il s'est engagé dans la Bundeswehr, où il a servi durant 4 ans. Il est aujourd'hui réserviste, avec le grade tout de même de lieutenant-colonel. Au sein de la CDU, c'est d'ailleurs l'un des plus fervents partisans du soutien à l'Ukraine. Il souhaite que l'Allemagne livre les fameux Taurus, ces missiles d'une portée de 500 km que l'Ukraine réclame à corps et à cri. Et il a des mots très durs à l'encontre de la Russie et de Vladimir Poutine. On sait enfin qu'il est partisan d'une coopération accrue avec la France, notamment dans le domaine du nucléaire. Un parcours et des convictions qui n'ont rien d'anodin, évidemment, à l'heure où l'Allemagne se sent abandonnée par l'allié américain.
Daniel Valo, voilà ce choix du nouveau ministre des Affaires étrangères en Allemagne, comme les autres présentés par la CDU aujourd'hui, doivent encore être validés par le Parlement. On reste en Allemagne, pays qui fait face, comme la France dont on parlait tout à l'heure, à une pénurie de médecins. Le phénomène concerne aussi les gros centres hospitaliers comme celui de Perleberg, situé dans une zone rurale entre Berlin et Hambourg. Pour pallier ce manque, les autorités de santé font appel à des médecins étrangers, ce qui n'est pas toujours facile au quotidien car la région est très marquée à l'extrême droite et certains Allemands n'hésitent pas à dire ouvertement leur rejet des étrangers lors de consultations. Reportage Salomé Enoncoa.
Dans cette clinique, seuls 2 médecins sur 8 que compte le service chirurgie ont obtenu leur diplôme en Allemagne. Les autres sont en train d'avoir leurs équivalences explique le médecin-chef Stefan Lenz.
Officiellement, ils n'ont pas encore l'autorisation d'exercer en Allemagne, mais il s'agit bien sûr de collègues qui ont déjà exercé la médecine dans leur pays d'origine. Ils sont très bien formés.
Pour faire face au manque de main-d'œuvre dans le domaine médical, le docteur Lenz, avec la direction de l'hôpital, a décidé de leur donner une chance. Et cela s'est transformé en véritable projet pour la clinique.
Dans d'autres Länder près de Cologne, personne ne pourrait travailler sans autorisation. La possibilité de travailler avant cette approbation, d'exercer le métier de médecin, est rare et n'existe que dans certains Länder allemands. Notre région est donc intéressante pour ces jeunes collègues qui peuvent gagner de l'argent pour leur famille et se préparer à l'examen en même temps.
Et dans le service du docteur Lenz, on parle russe, allemand, bulgare, ukrainien, espagnol. En tout, 25 langues sont parlées dans cet hôpital. C'est ce projet tout à fait singulier qui a attiré Juliane Wanzik, chirurgienne d'origine argentine, qui vit désormais dans le Brandebourg depuis 4 ans. Mais la pratique au quotidien est loin d'être évidente dans un land marqué politiquement à l'extrême droite.
Lorsque les patients entendent mon accent, ils sont tout de suite moins aimables. Il y a un an, un patient a expressément demandé à être soigné par un médecin allemand.
Dans cette région où près de 40% des électeurs ont choisi le parti d'extrême droite AFD aux dernières législatives, cette politique inclusive ne fait pas que des heureux, comme Gerlinde, 84 ans.
Selon moi, il y a assez d'Allemands. Avant, j'aimais bien aller à l'hôpital, mais plus maintenant. Je n'aime pas ce qui se passe là-bas. Avant, chez nous, c'était mieux en Allemagne.
Même son de cloche du côté de Laura, jeune mère de famille.
C'est bizarre, honnêtement. Tout d'abord, on ne comprend pas ce qu'il dit, il faut écouter attentivement. Par exemple, l'autre jour, j'étais avec mon fils, parce qu'il avait presque 42 de fièvre, aux urgences pédiatriques. Et là, ils m'ont dit, ou plutôt, un médecin étranger m'a dit, il faut bien le laisser faire une poussée de fièvre, laisse-le, et ça ira. Mais non, ça ne va pas du tout, ça. Il a 1 an et demi, mon fils. Alors, comme on dit en bon allemand, je lui ai fait un doigt d'honneur, et je lui ai dit d'aller se faire voir, parce que ce n'est pas possible.
Ce discours est repris par l'AFD locale, devenu premier parti de la ville aux dernières élections. Son antenne à Pignon-sur-Rue, en plein centre-ville. Jean-René Adam, son dirigeant local, abonde aussi dans ce sens. Il ne comprend pas que les médecins allemands ne viennent pas s'installer à Perleberg.
On a du potentiel avec beaucoup de personnes âgées ici. Nous sommes le district le plus âgé de Brandebourg. Il y a suffisamment de travail pour les médecins.
Mais quand on lui demande son expérience personnelle avec cet hôpital, il est plutôt positif.
J'ai été très bien traité. J'ai eu affaire à un médecin russe et ce qu'il ne savait pas dire en allemand, je le savais en russe. Alors ce n'est pas un problème.
Dans un pays où il manquera 300 000 médecins en 2035, le principe de réalité s'impose. À la clinique, Tom, malade chronique, l'a bien compris.
Trouver un médecin de langue maternelle allemande, cela peut être long. Donc respect aux gens qui travaillent ici. Si un jour quelqu'un ordonnait à tout le personnel étranger de partir, on devrait sûrement fermer cette clinique.
Pour le docteur Lenz, les soucis de recrutement de l'établissement sont dus notamment à des facteurs comme la faible attractivité de la région, la baisse des vocations dans la médecine et également aux nouvelles attentes des futurs médecins.
La génération Z a d'autres priorités comme l'équilibre entre famille et travail. Ici, en zone rurale, cela peut vite être négligé.
Alors, il souhaite que la population s'en accommode, mais aussi les médecins eux-mêmes, qu'il espère voir rester le plus longtemps possible. Et cela commence à l'intérieur de la clinique pour créer un véritable esprit d'équipe, malgré les différences.
Nous avons lancé un projet très intéressant. Nous organisons des soirées internationales. Nous avons commencé par le faire sur la Syrie pour nos collègues syriens. L'idée, c'est de leur demander de nous présenter leur pays, leur culture, leur médecine, la formation pour devenir médecin en Syrie. Et nous avons invité tous les employés de la clinique pour qu'ils puissent faire connaissance et s'informer sur les autres nations que nous avons ici et ainsi avoir une ouverture sur le sujet.
Et le médecin de conclure.
Cet hôpital ne pourrait pas exister sans ces médecins étrangers.
Stefan Lenz et la direction de l'hôpital sont très impliqués dans la validation des acquis de ces médecins dont les heures de travail sont aménagées pour leur permettre de réviser et passer des entretiens blancs. Une façon d'assurer le futur de l'établissement.
Reportage de Salomé Enoncoin à réécouter dans l'émission Accent d'Europe, disponible quand vous le souhaitez sur l'application RFI Pure Radio. On parlait de la guerre en Ukraine il y a quelques minutes. Le journal Le Monde en présente un des effets. L'Europe est désormais considérée comme l'ennemi numéro un par le service de renseignement extérieur russe. au point que sur le site de ce service, on peut voir une caricature d'Ursula von der Leyen, le visage semblable à celui d'un zombie, les pieds et mains remplacés par des pattes aux griffes ensanglantées. Le SVR revoit le récit national, écrit le quotidien français, qui ajoute « Venant de la part d'un organisme chargé d'infiltrer les pays étrangers, le message vaut avertissement ». Le Soir met en garde contre une autre menace, celle de la Chine qui traque ses opposants jusqu'en Belgique. Pression sur les familles, recours à des informateurs dans des communautés ciblées, demandes insistantes auprès des services diplomatiques belges. Les pressions sont nombreuses, elles s'exercent notamment via des codes qui reprennent des animaux représentant les 5 poisons en Chine et pour lesquels le pouvoir fait des références aux 5 communautés ou organisations qui, selon lui, menaceraient le Parti communiste chinois. Notamment les Ouïghours, le Tibet ou encore Taïwan. Et puis The Guardian révèle que les hôteliers et les propriétaires privés profitent de la crise des sans-abri et font payer aux collectivités locales au Royaume-Uni des loyers bien au-delà des prix du marché pour loger des personnes qui sinon se retrouveraient à la rue. Le journal britannique rapporte les propos d'experts selon lesquels le pays a créé une industrie de 2,35 milliards d'euros de fournisseurs de logements provisoires non réglementés dont certains fournissent des logements sales, infestés de rats et dangereux, d'après les personnes qui y vivent.
RFI, l'Europe à midi.
Les salariés européens ne vont pas bien, le travail pèse de plus en plus souvent sur leur santé et sur leur morale, et ces risques psychosociaux liés au travail coûtent chaque année entre 45 et 103 milliards d'euros à l'ensemble des pays européens. Des informations données par l'Institut syndical européen. Bonjour Agnieszka Kumor.
Bonjour Anne.
Cet institut a mené une étude dans les 27 pays membres de l'Union européenne et au Royaume-Uni et les chercheurs ont commencé par identifier des facteurs de risque.
Leurs travaux ont porté sur des données de 2015. Selon les chercheurs, il existe 5 facteurs de risque. La pression exercée sur le salarié, le temps de travail à rallonge, le déséquilibre entre les efforts fournis et la récompense, l'insécurité de l'emploi, mais aussi le harcèlement moral. Ces risques favorisent la dégradation de la santé mentale des salariés, rarement reconnus comme maladies professionnelles. Ils sont invisibles. En 2015, il y a eu 5000 décès liés à la dépression au travail dans l'UE, des décès directement attribués aux risques psychosociaux.
Une réalité dont les entreprises ne sont pas forcément conscientes.
Non, alors qu'elles en supportent le coût. Là-dessus, la France est le mauvais élève. L'Hexagone affiche en effet le coût annuel le plus élevé pour 100 000 salariés. Plus de 32 000 euros sont déboursés chaque année en France pour soigner les dépressions liées au travail, à cause notamment de la pression subie. Les salariés jugent que leurs efforts ne sont pas récompensés. Ils subissent aussi le harcèlement moral. Heureusement, selon les chercheurs, le temps de travail officiel de 35 heures par semaine limite l'impact des durées excessives du travail.
Et les problèmes de santé mentale ne sont pas les seules maladies liées au travail.
Non, les maladies coronariennes et les AVC aussi. Sur ce sujet, les pays de l'Europe centrale, orientale et de l'Europe du Sud semblent particulièrement touchés, notamment la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, la Grèce, mais aussi la Roumanie. La Confédération européenne des syndicats prend très au sérieux les résultats de cette étude. Elle souhaite une directive européenne consacrée à la prévention des risques psychosociaux liés au travail. Les syndicats français, notamment la CFE-CGC, luttent aussi pour la prise en compte de ces risques comme maladies professionnelles, mais le patronat y est tout à fait opposé.
Agnieszka Kumor. On va parler maintenant des clouds, ces nuages informatiques en français sur lesquels on va mettre des données en ligne, données stockées dans des serveurs et auxquels on peut ensuite accéder depuis le monde entier grâce à une connexion Internet. Si on en parle, c'est parce qu'il y a une dizaine de jours, la ministre française en charge du numérique a lancé un appel à projet de plusieurs dizaines de millions d'euros pour, dit-elle, bâtir une offre de cloud européen attractive, performante et compétitive. Voilà ce qu'elle a dit. Et on va faire le point sur ce marché du cloud en Europe avec vous, Jean-Jacques Herry. Bonjour.
Bonjour.
Correspondant à Bruxelles, d'abord, pourquoi est-ce qu'il faudrait un cloud européen ?
Mais tout simplement pour répondre à un problème de souveraineté, parce qu'aujourd'hui, une part écrasante du marché du cloud en Europe, 75%, les trois quarts, est occupée par des entreprises américaines. Autrement dit, les utilisateurs européens, des particuliers, des entreprises, des fonctionnaires, des autorités étatiques, eh bien, stockent la plupart de leurs données sur des serveurs informatiques qui appartiennent à des entreprises américaines. Ces serveurs, bien sûr, ils ne sont pas forcément situés aux USA, mais le droit américain, grâce à des lois extraterritoriales, donne à Washington le pouvoir de contraindre les entreprises américaines à leur en donner l'accès. Cela veut dire que les USA, potentiellement, eh bien, pourraient obtenir des données européennes sensibles à un moment où les relations entre les deux continents, vous le savez, ne sont pas au beau fixe, c'est un euphémisme, et en pleine guerre commerciale mondiale.
Mais pourtant, pour le moment, plusieurs entreprises européennes assument complètement de continuer à placer leurs données chez les Américains, Amazon Web Services par exemple, Google ou encore Microsoft.
C'est vrai, même si elle rechigne un peu quand même, hein, parce que selon elle, en fait, l'offre européenne n'est pas au niveau. Elle ne donne pas accès aux mêmes services que ses hégémoniques concurrents américains. Et dans le contexte actuel où l'Europe cherche à affirmer sa souveraineté face à l'Amérique de Donald Trump, il est certain qu'en tout cas, ça pose question.
Et ça pourrait bouger ?
En tout cas, il y a une prise de conscience. En 2023, par exemple, la Commission européenne avait voulu stimuler le secteur en autorisant l'injection d'1,2 milliard d'euros d'aide publique de la part de 7 États membres, dont la France et l'Allemagne, pour monter un système de cloud européen. Mais voilà, ça ne suffit pas parce qu'en face, les investissements américains dans le secteur ont atteint 800 milliards de dollars depuis 2010, selon des chiffres cités par l'agence France-Presse. En septembre dernier, Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, ne disait pas autre chose dans son rapport sur le futur de la compétitivité de l'Union européenne. Il pointait le retard d'investissement européen dans les nouvelles technologies en général, dans l'IA et également dans les services de cloud. Aujourd'hui, les entreprises sont donc les premières à pousser pour plus d'investissements. Le mois dernier, dans une lettre ouverte à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, les géants de la tech européenne, une petite centaine d'entreprises, dont Dassault et Airbus, ont appelé l'UE à reprendre l'initiative et à devenir plus indépendante sur le plan technologique à tous les niveaux de son infrastructure numérique critique. Les clouds font partie des secteurs clés évoqués à développer en fait, et la lettre pointe aussi du doigt les risques de sécurité et de fiabilité, avec in fine un manque de souveraineté. Dans la lettre, on dit aussi que des investissements en la matière viendraient en plus porter la croissance européenne, ça c'est du point de vue des entreprises.
Il y a eu une réponse de la part de la Commission européenne ?
Alors non, pas de réponse, mais au début du mois, pas de réponse directe en tout cas, au début du mois, Bruxelles a présenté son plan d'action pour un continent de l'IA, c'est le nom du projet. L'idée étant de faire de l'intelligence artificielle un des piliers de l'innovation future au sein de l'Union. Un volet de ce plan concerne les clouds, avec l'ambition de tripler la capacité des data centers sur le territoire européen d'ici 5 à 7 ans. Maintenant, il faudra que tout un écosystème qui comprend à la fois les États membres, le secteur privé et les différents investisseurs, eh bien, suivent tout ça.
Jean-Jacques Herry en direct de Bruxelles.
RFI Midi.
L'actualité européenne, c'est aussi le foot.
Liverpool are the champions of the Premier League.
Liverpool sacré hier champion de la Premier League après sa large victoire 5-1 sur Tottenham et les Reds égalent un record. 20 titres pour le club comme Manchester United. Il fallait bien ça pour se remettre de l'élimination en Ligue des Champions, dont on jouera les premières demi-finales demain soir. Le PSG se déplace à Arsenal et vous pourrez suivre le match en direct sur notre antenne. Rencontre avec une personnalité du monde de la culture. Aujourd'hui, l'artiste franco-italienne Tatiana Trouvé. Une immense rétrospective lui est consacrée en ce moment à Venise, au Palazzo Grassi du milliardaire François Pinault. Et Muriel Malouf l'a rencontrée.
Tatiana Trouvé, on va partir du titre de votre exposition au Palazzo Grassi à Venise. La vie étrange des choses, c'est déjà toute une histoire.
Oui, absolument, c'est toute une histoire. Mais c'est aussi leur vie étrange qui nous permet de connaître notre histoire, parce que c'est souvent à travers les objets, avec les objets qu'on retrouve, un archéologie qui nous permette de savoir nos parcours, nos activités précédentes, etc.
Alors, on rentre dans l'exposition par le hall. C'est un sol en marbre que vous avez choisi de recouvrir d'asphalte et aussi de bouches d'égout. Pourquoi ce choix de l'asphalte, qui est ce matériau quand même très commun aussi ?
Oui, mais c'était un peu, d'une certaine façon, faire entrer un peu de réalité, de vie. On parle effectivement de Venise, d'un palais vénitien de marbre, dont on sait très bien que Venise était au centre d'échanges commerciaux, de trafic, et aussi une certaine idée du capitalisme. Pour moi, c'était aussi faire entrer la rue dans ce palais, mais aussi raconter une histoire d'eau, une histoire qui nous compose, puisqu'effectivement, ces bouches d'égout proviennent un peu de partout du monde. Et c'était un peu comme si c'était l'endroit où arrivaient un peu tous les eaux du monde. Venise est encore est une architecture d'eau. Il y a un passage de personnes très très importants qui viennent du monde entier. Donc il y a toujours ces flux incessants de personnes qui viennent la visiter. Et aussi, je comparais peut-être à Venise à un corps humain, puisqu'on est nous-mêmes composés à 90% d'eau.
Dans votre exposition, il y a une masse d'objets que vous avez récupérés, collectionnés, que vous retravaillez. Et je pense aux chaussures qui se retrouvent un peu partout. Qu'est-ce que ces chaussures signifient ?
Oui, alors oui, effectivement, j'ai tout un lexique d'objets que je chéris, qui sont les chaussures, les coussins, les valises, etc., qui me permettent de composer, dont chacun pour moi a une signification profonde. Et les chaussures, pour moi, ça me permet de mettre cette relation que l'homme a au monde, notre façon qu'on a de l'habiter, de l'arpenter, de se déplacer.
Et ce qui revient aussi, c'est ce que vous appelez le gardien, une œuvre que vous mettez dans chaque pièce. Ce gardien, c'est un peu ce protecteur.
Oui, alors c'était une série d'œuvres que j'avais conçues un peu comme réponse lorsque j'étais invitée à des expositions de groupe. Parce que je travaille tellement l'espace et c'est tellement difficile de juste prendre une sculpture et de la poser parmi d'autres, que j'ai vraiment essayé aussi de réfléchir à qu'est-ce que c'est d'exposer ensemble. Alors j'ai voulu faire une sculpture qui soit finalement une sculpture qui garde les autres œuvres qui étaient autour de moi, qui en prenne soin et qui soit vraiment cette idée de communauté. Et c'est de là que sont nés les gardiens, mais qui sont aussi des gardiens du monde.
Le fait d'être à Venise, ça implique quoi pour vous ?
Venise, c'était pour moi d'abord un mois et demi de travail sur place. Donc, j'ai pas vraiment vécu la ville. La ville est aujourd'hui une ville extrêmement touristique qui, pour moi, me pose un petit peu un problème. Je pense pas que je pourrais vivre à Venise, même si c'est une ville qui est magnifique. Elle est en proie à un tourisme effréné.
Merci, Tatiana Trouvé.
De rien.
L'artiste Tatiana Trouvé au micro de Muriel Malouf. Tatiana Trouvé expose en ce moment toute une série d'œuvres, une rétrospective au Palazzo Grassi à Venise. Dans 3 minutes, un nouveau journal sur RFI et puis à 12h30, temps universel, l'actualité africaine. Bonjour Nicolas Sieux.
Bonjour Anne Cantner.
Vous nous parlerez aujourd'hui
de cet accord de l'opposition bissau-guinéenne. 6 responsables politiques réunis hier à Paris ont signé un plan d'action qui pose les bases d'un nouveau front commun face au président Oumarou Sissoko Embalo. Et puis le chef de la diplomatie belge, Maxime Prévost, est en visite aujourd'hui à Kinshasa après l'Ouganda et le Burundi. Il doit rencontrer le président Félix Tshisekedi.
À tout à l'heure, on vous retrouve dans un peu plus d'une demi-heure et pour le moment, on va écouter un peu de musique.
Hate to see you go. I love to see you come. So many options, but I'm the chosen one. I saw my neck. I'm the frozen one. Girl, love me, so you love me. You are very fine, I cannot deny. But is this really love, or is this a lie? Number one, you're my number one. Champion, girl, I need you in my bed. Turn me on.
Waiting God to give you, you got to show off. Make it for no loss. I go be a damn for driver. Drive you crazy, drive you crazy. Girl, I know what you like. Let's not put off the lights so I can see you clearly. Mwah, baby, give it to me. Oh, you are very fine. I cannot deny. But is this really love? Or is this a lie?
In My Bed de CK, c'est à écouter en ce moment dans la playlist RFI.
Champion, yeah, I need you in my bed.